La semaine prochaine, le gouvernement du Québec va faire connaître son plan de contingence pour faire face au manque à gagner ou à l'absence de, on anticipe peut-être, des milliers d'infirmières ou d'employés dans le système de santé qui ne seront pas au travail parce que la date butoir du 15 octobre va être passée et que, évidemment, je vous le rappelle, les gens qui ne seront pas vaccinés adéquatement passé cette date-là devront être en congé sans solde à la maison. Il y a des chiffres qui ont circulé. Là, on parle de 27 000 personnes qui n'auraient pas encore reçu ou qui ne seraient pas adéquatement vaccinées. J'ai spécifié certains chiffres, validé certains chiffres, puis faut regarder le personnel soignant, parce que si c'est des gens au niveau plus administratif ou bon qui n'ont pas un contact direct ou quoi que ce soit, je dis pas que ça aura pas d'incidence, mais c'est tel que tel.
Ils sont obligés eux aussi de ce que...
C'est ça. Mais le personnel soignant qui n'a pas reçu de première dose, on parle de 6 900 personnes. Ça, c'est des chiffres qui datent de hier quand j'ai parlé des contacts au gouvernement. Ceux qui sont en attente d'une deuxième dose, il y en a 11 700. Donc, on peut présumer que ces 11 700-là qui sont en attente de la deuxième dose vont être vaccinés adéquatement à un moment ou à un autre. Et si il y a des gens qui espèrent que le gouvernement va peut-être se montrer plus clément. Moi, je pense que ça n'a pas encore filtré dans les médias, mais ce qu'on m'a un peu télégraphié, Jérôme, c'est que si au 15 octobre, il y en a qui démontrent qu'ils ont rendez-vous pour leur deuxième dose...
La bonne foi.
Ils ne seront pas fouettants.
Ouais, la bonne foi.
C'est le risque de dire aux gens, démontrez-nous que vous allez vous faire vacciner, puis peut-être qu'on pourra vous garder. Mais il reste que pour les 6 900 qui n'ont toujours pas reçu leur première dose, c'est la ligne dure. Et là, le gouvernement devra présenter son plan de contingence. Dans les derniers jours, il y a des rumeurs qui me sont parvenues aux oreilles. Hier, il y a des gens qui étaient à l'écoute à peu près à 7h-ci ou un peu avant, je parlais du fait que, c'est quand on a parlé du panier de services puis des soins en santé, je disais qu'il y a des gens qui me disaient que c'était pour être pas mal compliqué, là. Des lits en moins, des salles d'opération qui pourraient être fermées. Et il y a un aspect qui m'a été mentionné par quelques personnes hier. Je voulais vous en parler, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que le docteur Simon, M. Simon, est en entrevue avec Nathalie Normandeau sur nos ondes un peu plus tôt aujourd'hui. Et il a répété exactement une des informations qui m'est parvenue. Vous allez voir, c'est bien intéressant. Ça concerne, si on veut, la stratégie des gens non vaccinés qui voient le 15 octobre arriver puis qui se disent « Ben, peut-être que le gouvernement va changer d'idée. »
Il va y avoir une période d'adaptation, Mme Normandeau, qui va être vraisemblablement douloureuse. Mais en même temps, les gens qui, pour des raisons personnelles, étayées par Facebook et Instagram, ont refusé de se faire vacciner jusqu'à maintenant, là, pour l'instant, elles résistent dans l'espoir que, justement, on mette un sursis, qu'on abandonne la mesure. Mais probablement que, quand le décret va s'appliquer le 15 octobre, ben, je suis pas sûr qu'ils vont vouloir, qu'ils exercent un emploi. Ils sont foncièrement des personnes qui veulent servir, qui veulent aider, et ils vont peut-être mettre dans la balance la joie qu'ils ont d'exercer leur profession par rapport aux raisons qui sont les leurs, mais qui sont malheureusement pas tellement justifiables de refuser le vaccin, tant pour eux-mêmes que pour les gens qu'ils servent. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce de un jeu de chicken, comme on dit. Alors, là, on va aller jusqu'au 15 octobre en espérant que le gouvernement dise « Ah, ben, on va faire un accommodement. » Mais quand l'accommodement se produira pas, ben, on va se retrouver avec des gens qui vont dire « OK, je pense que, finalement, ça va faire la bravade. Je vais aller me faire vacciner. Je vais retourner faire ce que j'aime. C'est un bon emploi. Ça me permet d'être utile. » Et il y en a quelques-uns des irréductibles qui reviendront pas, mais je pense pas qu'on va avoir 37 000 travailleurs de la santé qui vont quitter le système de façon définitive. Ça m'apparaît apocalyptique et très pessimiste.
Jouer à chicken, et c'est drôle parce que c'est l'expression qui avait été employée par une des personnes avec qui j'ai parlé dans les derniers jours. Je me souviens pas, Nico, avec ta mémoire phénoménale, peut-être que toi ça va te revenir, mais il y a un film, tu sais, des années 70-80, j'ai en tête genre Kevin Bacon, là, qui font l'espèce de défi où chaque voiture fonce une sur l'autre, puis c'est le premier qui va se tasser, là, tu sais, puis la dernière seconde, t'en as un qui finit par se tasser, puis celui qui s'est pas tassé devient celui qui a peur de rien, là. On a vu ça dans plusieurs films. J'ai l'impression que c'est à ça que les gens non vaccinés et le gouvernement jouent en ce moment, parce que là, on nous parle d'un plan de contingence, mais ce qu'on constate, c'est que d'un côté, tu as des non-vax qui semblent se dire « Ils n'auront pas le choix, ça va tellement être le bordel si on est 6 900 ou quelques milliers à devoir quitter le réseau, ils n'auront pas le choix de plier, donc on fonce la tête baissée. » Et de l'autre côté, tu as le gouvernement qui dit « Oui, on travaille sur un plan de contingence, Mais dans le fond, ils sont pas mal certains que quand ils vont voir qu'ils gardent la ligne dure, peut-être qu'au bout de quelques jours, voire quelques semaines au maximum, ces gens-là vont se faire vacciner puis ils vont revenir. Mais il arrive quoi si personne bouge? Si personne...
Ben, regarde, là, les chiffres qu'il a donnés ce matin, là, il y a 1007 infirmières à temps complet qui reviennent. Première des choses, OK? L'autre affaire, j'ai entendu à l'émission de Nathalie ce matin aussi, là. Apparemment qu'il y a des employés dans un hôpital, c'est peut-être le cas ailleurs, mais ça aurait été dit dans un des hôpitaux, qui pensent qu'ils vont avoir du chômage.
Ouais.
Je vous souhaite bonne chance pour votre demande de chômage. Là. Si vous êtes suspendu sans solde parce que vous n'êtes pas vacciné, good luck. Bonne chance dans votre demande là, auprès du gouvernement fédéral pour avoir du chômage. Puis moi, j'écoutais le point de presse ce matin, Joe, là, et j'applaudissais dans mon salon. Puis je suis pas gêné de vous dire, des fois, on est très critique, puis il faut être critique envers les politiciens, puis on va continuer de l'être, là. Mais Christian Dubé, là, je me souviens pas d'un aussi bon ministre de la Santé dans les 30-40 dernières années. Ça fait plus de 30 ans que je suis politique, d'accord. Là. Je me souviens pas d'un ministre aussi solide. Nomme-les toutes, là. Pas personnalisé, là, mais passe-les toutes si tu veux, là. Monsieur Legault, Pauline Marois, Régent Hébert, Yves Bolduc, Philippe Couillard, passe-les toutes si tu veux. On a le meilleur ministre de la Santé des 30-40 dernières années qui est assis dans la chaise présentement. En acceptant le fait qu'il n'y a personne de parfait, qui n'est pas parfait lui non plus. Que la situation, par exemple, en CHSLD, c'est pas lui qui a causé ça non plus. Est-ce qu'il aurait mieux géré ça? Je ne sais pas. On peut pas lui attribuer tous les maux du système de santé des 40 dernières années. Mais pour faire le travail présentement, là, dans une situation critique et difficile, où il faut convaincre des réfractaires, je vais dire des irresponsables, là, parce que si tu travailles en santé et que tu t'es pas vacciné, tu es un ou une irresponsable. Il n'y a pas d'autre mot que ça, là. Lâchez-moi que les convictions. Des convictions de quoi, là? Lâchez-moi que les croyances. Lâchez-moi que les opinions. C'est. Il n'y a pas de débat.
Non,
le vaccin est efficace. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Fait que lâchez-moi avec ça. Les employés du réseau de la santé qui sont pas allés chercher encore leurs deux doses, ce sont des irresponsables. Ils ont encore une chance de corriger la situation. Mais je trouve qu'on peut pas être mieux équipé actuellement qu'avec Christian Dubé comme ministre de la Santé.
Non, je suis d'accord. J'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer au lendemain du 15 octobre parce que tu parles, bon, 1000 infirmières qui reviennent. Mais si on fait un petit calcul rapide qui est peut-être un peu simpliste, là, mais qui nous donne une idée, je te disais 6900 qui n'ont pas encore reçu leur première dose et on cherchait 4300, 4500 infirmières à ramener à temps plein avec les bonifications qui ont été annoncées. Donc, si tu fais 6900 qui vont peut-être partir, moins... en fait, plus 4300 qui manquaient déjà, quand même que tu vas en chercher 1000 de plus, tu peux avoir un joli manque à gagner. Bref, j'espère que le gouvernement a raison et que il y a des gens qui vont entendre raison. Et parce qu'il y en a chaque jour, je pense, qui en, de plus en plus qui entendent raison qui vont se faire vacciner. Mais espérons, même si j'appuie, moi, le gouvernement dans sa démarche, espérons que ce sera pas trop pénible comme ajustement. Le docteur Simon parlait d'ajustement. Justement, quand on parle du système de santé, là, quelle chronique de Patrick Lagacé dans la presse ce matin, si vous avez pas lu ça, qui s'intitule « L'imprimante à 6000$ de la drill du 6 ».
Ça, c'est du bon Lagacé, parce que Patrick, on se le cachera pas, des fois, à Québec, il fait pas l'unanimité. De toute façon, personne fait l'unanimité, mais tu sais, des fois... Mais ça, matin, ça, c'est du bon Lagacé.
C'est incroyable. La drill du 6, c'est quoi le 6? Bien, évidemment, c'est le Centre intégré de santé, de services sociaux, blablabla, de Laval. Et le drill, c'est la direction des ressources informationnelles de Laval, Laurentides-Lanaudière. De là, le drill. Et je voulais résume très, très, très simplement. Là. Il y a deux médecins qui aménagent dans un nouveau bureau, un hôpital. Ils ont besoin d'une imprimante. Et là, ils font des démarches, des démarches, des démarches. Ils ne réussissent pas à savoir comment, juste avoir une imprimante. Ils veulent juste une petite imprimante, imprimer des papiers. Ils ne veulent pas un gros scan, ils ne veulent pas faire de la chirurgie avec leur imprimante. Là. Et ils en viennent décourager, écrivent à, je pense, c'est une quinzaine de personnes, tous les gens qui connaissent des ressources informatiques,
trail,
des
c'est trail,
ça, trois. C'est ça, mais après ça, eux, ont transféré ça à 16 personnes. Et ça a pris des semaines et des semaines avant qu'ils puissent finalement avoir la confirmation qu'ils auraient une imprimante. Et quand ils ont eu la dite confirmation, il y avait l'espèce de plan financier là, sur 5 ans pour financer l'imprimante, l'opération avec les cartouches, le papier. Puis ça coûtait 6 000$. 6 000 fucking piastres. Excusez mon langage, là. Et là, les médecins, qui dans le fond, pourraient dire, on s'en fout, c'est pas nous autres qui payent, les médecins ont dit, non, mais On veut juste 200 pièces pour régler ça, bureau en gros, 200 pièces, plug ça dans le bureau. Et là, ils se sont fait dire, non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et on sait que ultimement, les procédures en place permettent des économies substantielles. Comment tu peux prévoir, tu peux prétendre que tu vas engendrer des économies d'échelle au volume quand pour une imprimante, pour deux médecins, tu t'engages pour 6 000 $ en 5 ans. C'est fou comme la...
Ils ne pouvaient pas aller chez Bureau en gros la chercher elle-même et la plugger parce qu'il y a un réseau sécurisé, etc. T'sais, fait que ça... Puis tu sais, des fois, on se demande, Joe, ah, on se plaint les impôts, ouais, on coupe où, bla... Mais c'est dans des affaires comme ça. C'est ça qui fait qu'en bout de ligne, ça nous coûte cher. Moi, ça me dérange pas de payer. Bien, enfin, même, c'est pas juste ça me dérange pas. Moi, je suis fier de payer des impôts pour que quelqu'un reçoive des traitements. Ouais. Pour qu'on opère des enfants qui ont des tumeurs, pour que des gens reçoivent des traitements médicaux. Je suis fier de payer des impôts pour ça. Mais c'est ça qui nous coûte cher.
Ah, c'est
de la bureaucratie telle que décrite dans la chronique de Patrick.
Quand je te dis que dans les milieux médicaux, ils font des blagues sur le fait que chaque médecin a son fonctionnaire. Tu sais, t'as un fonctionnaire par médecin, c'est un peu ça. Là.
Ouais.
J'ai déjà raconté à l'époque qu'on m'avait dit quand ils ont le fameux dossier patient là, qui a coûté des centaines de millions, voire des milliards à mettre sur pied. Là, quand un médecin voulait aller chercher sa clé pour pouvoir avoir accès à ça, il se faisait donner un rendez-vous. Comme s'ils ont beaucoup de temps, là, tu sais, il fallait qu'il y ait des plages horaires à respecter. Puis là, il rentrait dans une pièce, Jérôme, et il y avait trois fonctionnaires dans la pièce. Premier qui validait l'identité. Deuxième qui remettait la clé, qui était dans le fond une clé USB. Tu sais, on est tellement à la page, c'était une clé USB. Et troisième fonctionnaire qui expliquait comment utiliser la clé USB.
Tu pensais à ça.
Qui expliquait que c'était pas sur tous les ordinateurs de l'hôpital que tu pouvais t'en servir et que dans bien des cas, fallait que tu te penches à terre, que tu ailles en arrière de la tour de l'ordinateur pour brancher la clé USB pour espérer avoir accès au dossier patient. Tu avais trois fonctionnaires qui étaient mobilisés pour ça.
Il y a des compagnies qui fonctionnent un peu comme ça, mais c'est leur argent. Ils font ce qu'ils veulent avec leur argent.
Mais là, c'est notre argent,
c'est d'autre chose.
OK, on doit absolument s'arrêter. 25 de 26, si vous voulez nous rejoindre dans Trudeau-Landry.